Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de The Podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seul de nouveau. Je suis avec Anthony Ditao, qui est un lecteur du blog, mais aussi rédacteur sur d'autres blogs jeux vidéo. Salut.
Salut.
Aujourd'hui, on va parler de plein de choses en fait. On va parler de plein de petites choses, de plein de petites news qui sont tombées ces dernières heures, ces derniers jours, avec le film Pokémon Détective Pikachu. On va parler de comics avec la vie d'Anthony sur un des comics Batman. On va parler de la mort de Stan Lee, de la saison 3 de Daredevil, mais également du tome 5 de Dragon Ball Super. Donc pas de jeux vidéo cette fois-ci, on s'oriente comics et manga. Un beau petit programme, je pense. On va commencer tout de suite avec Pokémon Détective Pikachu. Donc il y a vraiment le film a été annoncé via un trailer il y a quelques heures. C'est un film qui va sortir le 8 mai prochain, donc en 2019. Moi, ça m'a bien plu. J'ai regardé le trailer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Alors moi, je suis très fan de l'univers Pokémon, donc ça aide aussi. C'est vraiment une licence que j'adore et que j'affectionne particulièrement. Là, on retrouve en fait Pikachu en tant que détective, un peu comme le jeu Pikachu, Détective Pikachu, qui est sorti sur 3DS récemment. Et on découvre un univers vraiment, voilà, réaliste. Pikachu est en photoréaliste, c'est vraiment incroyable. J'adore son aspect graphique, j'adore aussi l'humour qui est présent dans cet univers. Je pense que ça va être très très intéressant comme film. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Anthony.
Alors j'ai déjà peur du film en version live action parce que j'ai toujours peur maintenant quand c'est un film américain live action d'un manga, c'est de partir sur l'effet Dragon Ball Evolution. Toujours un petit peur. Après, bon, on va dire qu'ils sont quand même améliorés sur live action parce que même si Death Note par exemple avait été très 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 critiqué, bon, j'ai quand même regardé en mettant à côté ce que je connaissais du manga, et pour finir ça apportait quelque chose d'intéressant. Donc après puis même le guest de Death Note c'était un petit peu mieux, comme il y avait William Dafoe qui jouait un Ryuk excellent. Je me dis maintenant il laisse, on va dire qu'ils prennent des guests qui maîtrisent notamment un petit peu tout ce qui est doublage d'animé ou de films d'animation, donc ça pourrait être pas mal. Et après, en termes de visuel, ça a pas l'air déconnant quoi. Je m'attendais à pire sur le coup. Et après, j'ai peur que ce soit peut-être un petit peu régulier en termes de live Pokémon. Le Pikachu m'a l'air très bien, mais par contre, quand on voit le Monsieur Mime un peu plus loin, il fait un peu flipper le Monsieur Mime, je trouve.
Ouais, bah même les autres personnages, de toute façon, en fait, je crois qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un. On n'a pas l'habitude de voir retranscrire l'univers Pokémon dans ce style graphique. On a vu Dragofeu aussi, on a vu Carapuce aussi sur une affiche de mémoire.
C'est ça, comment
Mais
il y a un
en gros,
Pikachu.
ouais, c'est vrai que c'est un peu choquant le style graphique. Moi, ça m'a pas déplu. Ça m'a
Bah,
pas déplu. Ça fait bizarre. Franchement, ça fait bizarre.
moi,
Au
parce
début,
qu'en fait,
j'avais peur.
ça m'a fait un peu penser justement alors, j'ai pas l'artiste, mais il y avait à l'époque des fanarts qui avaient
Oui,
sorti justement des
exact. Ça
Pokémon
fait penser
réels.
à ça.
Et c'est vrai que
Mais un
ça
peu
faisait.
méchant.
C'était
Un
un
peu
voilà,
style
c'était un
méchant.
mix réel, mais style un peu bortonien. Et
Ouais,
du
mais
coup,
je
c'est
pense
vrai que
qu'on
c'était
a
pas
justement, on a
faux.
tous cette image en tête, et du coup, moi, c'est ce que je te disais, en fait. Moi, réellement, au début, j'avais un peu peur de voir ces Pokémon comme ça, réalistes, 3D, rentrer dans la vraie vie, etc. Je trouvais ça un peu flippant, un peu malsain, quand on pense à l'univers Pokémon qui est vraiment très adapté aux enfants. Et au final, plus j'ai regardé la bande-annonce, plus je me suis dit, ouais, ça peut être mignon quand même. Ça peut être mignon, surtout que c'est assez marrant. Là, comme tu disais, en fait, on sent que enfin, je pense que ça va être vraiment bien produit et que ça va être un bon petit film quand même derrière. C'est la voix de Ryan Reynolds qui est derrière, de Pikachu. Donc je pense que voilà, y a quand même des moyens.
Bah c'est ça, c'est vrai que maintenant ils commencent à mettre le budget et pas dire voilà, on fait une adaptation en live d'un truc japonais qui a marché et donc tout le monde va y aller, quitte à dire qu'après ça sera une grosse bouse et tant pis, on aura fait notre pognon derrière. Là, il y a vraiment quelque chose d'essayer de faire un produit assez fidèle et pas aucun copier-coller, mais une adaptation qui est comme cohérente avec le récit original, quoi.
Ouais, je pense que franchement, réellement, ça sera quand même une bonne surprise. Et moi, en sortant de ce premier trailer, je me suis dit, putain, mais vivement la sortie du film, quoi. Je pense
Ouais.
que j'irai directement au cinéma voir ça.
Bah puis je pense que ça va être le premier film. Bon, même si ça va tomber sur mon avis du film Teenage Vacances, mais ça va être, je pense, le premier film sérieux entre guillemets de Pokémon, quoi.
Ah, mais clairement, clairement. Et ce qui est fort, justement, c'est que des gens comme toi et moi, d'une trentaine d'années, vingtaine, trentaine d'années, iront le voir. Je pense que des enfants peuvent aller le voir parce que c'est adapté à tout public. Et c'est ça qui va être fort. Je pense que ça va toucher vraiment toutes les générations, quoi. Que ce soit enfant, adolescent, adulte, il y a moyen vraiment d'avoir énormément de monde qui iront dans les salles de cinéma découvrir cette nouveauté, quoi.
C'est ça. Et puis, du coup, je pense que le doublage, du coup, serait un peu moins nié, entre guillemets, par rapport à ce qu'on avait déjà eu sur les films Pokémon quand ils sortent en salle française. Enfin, les doublages, c'est
Ouais,
très
c'est
vite,
très
c'est très
enfantin, hein,
nié.
c'est très
Alors,
enfantin.
pourtant, que j'ai regardé certains films Pokémon en VO, et bon, sans partir sur l'éternel combat à la VO, c'est mieux que la VF, mais c'est vrai que la VO, même pour un film Pokémon enfant, paraît plus sérieuse, je trouve.
Ouais, j'ai jamais fait le comparatif. C'est vrai qu'après, moi, quand j'étais enfant, je regardais Pokémon et je m'étais un peu habitué aussi aux voix françaises, un peu, on va dire niaise, ouais, on va dire ça comme ça, un peu aiguë. On va dire
C'est
ça un peu
ça,
trop
ouais.
aigu
Bah, c'est
parfois.
très infantilisé, entre
Ouais,
guillemets,
très
on peut dire.
infantilisé, mais en fait, quand t'es enfant, ça passe hyper bien.
Voilà, oui,
Et
c'est ça.
c'est juste que quand tu grandis, tu dis, ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre
Bah,
pour
c'est
certains
que le produit.
persos et certains Pokémon, quoi. Tu dis, c'est pas très logique, quoi.
C'est que le produit
Mais...
n'a pas vieilli avec nous, en fait. Il est resté toujours
Ouais.
pour la même cible.
Bah, c'est ça, de toute façon, on va pas se mentir, hein. Le produit reste pour les enfants, mais il cartonne auprès des ados et des adultes, hein.
Ah oui, après,
Ça,
c'est
y a
vrai,
pas
au niveau
de.
nostalgique, ça.
Ah oui,
Ouais,
ça
même des
cartonne.
fervents derrière qui vont surtout bah, après ceux qui font tout ce qui combat après en ligne.
Ils sont très très forts. Ah, moi voilà, je suis accro à la licence Pokémon, je joue à Pokémon Go, j'attends Pokémon Let's Go, on en parlait dans le précédent podcast. Quand il y a des cartes Pokémon, j'hésite à craquer tellement je les trouve superbes, mais elles coûtent un bras.
Surtout
On va
oui.
pas se mentir,
Oh, mais
elles
j'ai des
coûtent un
regrets là
bras ces
de
cartes.
cartes que j'ai entre guillemets que j'ai béné gratuitement et quand je vois leur valeur de maintenant, je fais ah si
Ouais,
j'avais
il
su.
y a des cartes, effectivement, mais c'est comme tout, hein. Les premiers modèles en super bon état, ça je pense que ça se vendra. Vraiment quelques centaines d'euros et ça peut être même flippant quoi les chiffres.
Non, parce que j'avais à l'époque j'avais encore la carte Mew qu'ils avaient filée lors du film. Quand il était sorti en salle, ils te filaient la carte Mew bah, qui est justement dans le film en sortie de salle. Et j'ai vu qu'elle a pris une sacrée valeur cette carte-là.
Ouais, ça m'étonne pas, ça
Donc
m'étonne
Fillon,
pas.
je trouvais ça c'était un goodies que tu pouvais même pas
Ouais.
sortir dans les decks. Je vois, ça n'a pas de valeur quoi. Les
Ouais.
cartes Mew. Hein.
Bon, super. Tu vas nous parler maintenant d'un comics Batman. Dis-moi un peu tout ça.
Ça, donc en fait, ça va être Batman What Knight. Alors, il permet en même temps d'amorcer un nouveau label que DC a sorti, donc ce qu'ils appellent le Black Label. Alors, pour parler rapidement du label, en fait, c'est un label qui se veut un peu contenu premium. Donc, notamment, bon, ces années, c'est là où on voit plus la différence. Parce que quand ils sortent, on va dire, les hebdomadaires sous forme de chapitres, un peu comme les shonen, c'est vraiment un format un peu papier très fin, un peu glacé, mais pas de très grande qualité, même si c'est une qualité très, très correcte. Là, le format premium, on est déjà sur, même si c'est des formats chapitres, on est vraiment déjà sur du quelque chose du cartonné. Et donc, du coup, un papier plus robuste, donc après, avec un prix un petit peu plus haut. Mais après, le contenu Black Label se veut déjà un contenu plus adulte.
Ok.
Mais après, plus adulte, mais on sent quand même un peu l'esprit puritain américain, donc pas trop quand même de langage grossier. Pareil aussi sur tout ce qui est un peu scène de nudité, tout ça, ça va être très censuré. Déjà, il y a eu déjà de la censure sur celui-là, mais il y a aussi eu de la censure sur. Alors, je crois que c'est Batman Damage, je crois que ça devait s'appeler un truc comme ça, où en fait, il y avait une case où Batman est à poil, et du coup, en fait, sur la case, on voyait le Bat-Engin. Et en fait, du coup, il y a une critique au niveau des États-Unis, et du coup, ils ont ressorti le chapitre avec une grosse tache noire à la place, en fait, pour foutre tout le reste. Donc,
Ok.
c'est du contenu plus adulte, mais
Mais
bon, avec
ouais,
voilà
dans ses
l'esprit
limites.
puritain américain où, bah, voilà, faut pas montrer un sein, faut pas montrer une fesse, etc. Après, ce qui est très bien, c'est que alors les Black Labels se veulent être des histoires vraiment indépendantes de la continuité d'essai. Donc,
Donc on peut
c'est.
commencer ce comic sans avoir vu, enfin sans avoir vu lu les
C'est
précédents.
ça, c'est ça. Il n'y aura aucun rapport à bah justement au New 52 ou etc. C'est vraiment, on peut le prendre vraiment indépendamment. Ce qu'ils appellent ça un peu l'univers What If ou un autre nom en fait. C'est vraiment qu'est-ce qui se passerait si par exemple un petit peu comme dans le What Knight où les rôles étaient inversés, c'est-à-dire que le Joker deviendrait le gentil de l'histoire et le Batman l'ennemi numéro un.
Ok.
Et juste ça qui est pas mal. Après
Et c'est du one shot ou c'est sur plusieurs tomes?
Mais alors justement, à la base, What Knight était prévu en one shot, et ça a tellement cartonné aux États-Unis que bah maintenant ils vont faire une série un peu étendue qui va s'appeler Batman Curse of the White Knight, donc où ils vont notamment introduire le personnage d'Azazel, si je ne me trompe pas, parce que je crois que je dis Azrael, non, c'est Azazel, c'est bien ça, je confonds toujours les deux noms. Donc ça s'annonce du lourd. Alors après, ce qui est bien, c'est que Black Label, pour le faire, comme c'était un peu un des premiers qui allait initier ce label-là, ils ont sorti un peu leur tirerie, donc ils ont sorti notamment Sean Murphy. Qui est assez réputé notamment pour ce dessin. Et là, c'est vraiment une histoire originale de Sean Murphy avec les dessins par Sean Murphy. Donc après, ça a été mis en couleur par Matt Hollingsworth. J'espère que je défends pas trop son prénom. À l'ancrage, il est sympa parce que c'est un ancrage un petit peu style aquarelle.
Ok.
Donc qui rend bien. Après, au niveau, il y a trois formats qui sont sortis là, actuellement en France. Donc il y a, on va dire, le format, on va dire classique. Il y a un format classique, un format Fnac qui est sorti avec une couverture alternative, et il y a une version noir et blanc qui est sortie. Je me tâte, faudrait que j'aille la feuilleter un petit peu chez mon libraire, voir si je vais la prendre, parce que comme l'histoire est vraiment intéressante, je me tâte à prendre la version spéciale.
Donc là, pour l'instant, le comics que tu as, que
Ouais.
tu possèdes, est uniquement en one shot. Donc c'est
C'est
vraiment un
ça.
seul
Là,
tome.
vraiment, oui, c'est en, alors, je crois que c'est en 8 chapitres. Il y a un début, il y a une fin.
Ok.
Bon,
Ça
après,
se lit
comme ça a marché, c'est
tranquillement.
marqué fin et entre mes trois petits points, début d'un nouvel arc. Mais
Ok.
franchement, on prend le tome, on a un début, on a une fin.
En tout cas, ça me donne envie de découvrir une histoire alternative
Bah,
de
c'est tout fait.
Batman. Et donc, du coup, si j'ai compris, c'est les rôles sont inversés entre Batman et le Joker.
C'est ça. Donc en fait,
Pour résumer.
après j'étais. Alors ils ont survendu un peu le truc. Hein. C'est pas vraiment Batman devient l'ennemi numéro un, le Joker devient le gentil de l'histoire. C'est un petit peu. Alors ce qui est pas mal, c'est que celui-là est très très. Je le trouve adulte parce qu'en fait il est vraiment un petit peu sociopolitique de côté. Donc en fait c'est. En fait la théorie qui sort du bouquin, c'est que Batman en fait, qui se dit être le sauveur de Gotham, en fait ce serait plutôt Gotham qui serait. Pardon. Batman qui serait en fait la cause de la création des super criminels. En gros, ce serait lui qui crée
Ok.
toujours ce cercle de destruction continuelle. Tout ça. Et du coup, en fait, il est vraiment un petit peu comme dans Batman vs Superman, justement. Il y a pas mal de
Il est mal
références.
aimé, quoi.
Et surtout, ouais, en fait, c'est là où il est devenu trop vindicatif, trop bourrin. Et justement, là, il franchit la ligne rouge, un moment où le Joker dit qu'il se rend, tout ça. En fait, il est limite parce qu'en fait, il dit qu'il a trouvé des cachets qui pourraient le sauver. Et de le faire redevenir gentil, et du coup, en fait, il le prend, il lui fait bouffer les cachets, limite à l'overdose. Donc, ça, c'est vraiment pour m'échapper, donc je spoilerai pas sur la suite. Mais ce qui est vraiment bien avec ce Batman, c'est déjà qu'ils ont mis le paquet, on va dire, au niveau de l'arrière. Mais c'est surtout que ça va être un comics qui va être très orienté, un peu fan base quand même. Donc, il va avoir beaucoup de références. Alors, moi qui suis un fan de la série animée de Batman, ce qu'on appelle TAS, ce que les gens appellent TAS, c'est vraiment. Ça va être une suite un petit peu à justement. Alors, je sais pas si tu l'as regardé à l'époque, qui passait sur France 3, je crois, la Batman The
Si, si,
Animated
ouais.
Series.
Peut-être pas tout regarder, mais en tout cas, j'ai
Voilà.
regardé une bonne
Donc,
partie,
il y
ouais.
a, on va dire, une intrigue, on va dire, une principale intrigue qui va être justement un petit peu qui va faire écho à un épisode de cette série-là. Après, il va aussi avoir notamment beaucoup de références au Batman de Burton. Notamment sur l'identité. Donc là, quand le Joker va être guéri, il va utiliser sa vraie identité pour essayer de sauver Gotham. Donc, bon, je me croque parce que je regarde vite fait le résumé si c'est indiqué dessus. Nanana. Oui, donc c'est mis dans le résumé, donc je me permets de le dire. Donc il utilise l'identité du Joker de Batman Burton, qui est Jack Napier.
Ok.
Donc c'est lui, en fait, c'est vraiment lui en tant que civil. Il va essayer justement de restaurer la gloire de Gotham. Donc après, il va y avoir pas mal de références aussi, notamment à Nolan, que justement sur un peu l'esprit sociopolitique qu'avaient les films. Certains éléments aussi, notamment de la Batmobile, tout ça, va faire référence à Nolan. Et il y a aussi un passage de l'histoire que je vais pas spoiler, mais qui fait référence à Batman et Robin. Donc bon, la série, le film qui était un petit peu nanardesque à l'époque, mais justement ils ont sorti. Alors pour moi, je suis content parce que c'est vraiment le seul élément que j'avais trouvé intéressant dans Batman et Robin. Il est réintégré dans ce bouquin-là.
Ok.
Ça aussi. Et on va aussi avoir une Harley qui va être super bien travaillée. Pour une fois, ça va pas vraiment être la greluche de base, qui fait des simgrés et tout. Là, c'est vraiment, j'irais même Harley est un des personnages principaux de l'histoire et est très bien exploité. Et ceux qui n'auront pas aimé Suicide Squad, je pense qu'ils seront contents aussi.
Ok, super. Mais en tout cas, ça donne envie. Donc,
Mais
pour résumer, on
franchement,
va dire que c'est un comics
on...
one shot bien intense, graphiquement impressionnant.
C'est ça, ouais.
Et voilà,
Ah,
qui
franchement, oui,
propose une
c'est.
histoire alternative intéressante.
Et franchement, ce sera, je pense, un Batman qui sera plus tard reconnu comme une référence, enfin, comme un bouquin essentiel dans les œuvres de Batman.
Super. Bah écoute, moi je vais le mettre dans ma liste de
Pour
Père Noël, je
Noël, c'est
pense.
ça.
Effectivement. On va enchaîner avec une nouvelle un peu plus triste, c'est la disparition de Stan Lee à 95 ans. Alors pour Stan Lee, je pense que tout le monde le connaît. On va pas trop le résumer, on va juste dire que c'était un grand créateur de super-héros comme Iron Man, Daredevil, Spider-Man, Hulk, X-Men, donc tout l'univers un peu Marvel. D'ailleurs, c'est vraiment un peu Le résumé de sa vie, c'est qu'on a l'impression qu'il est l'univers Marvel. C'est un grand homme et franchement, j'étais triste d'apprendre sa disparition. Et voilà. Enfin, je pense tu penses la même chose que moi.
Oui, voilà, après du coup, j'attends de voir ce qui va se passer, parce que après 94 ans, c'est quand même un bel âge, on va dire
C'est
qu'il
sûr, c'est
a...
sûr.
Mais après, ce qu'on va dire que c'est ces derniers mois où il était un peu dans des affaires un petit peu cheloues, donc là, on attend de voir si, entre guillemets, ils vont se délier, et puis, justement, pour faire vivre la presse un peu putaclic, ce qui va en sortir de tout ça. Après, moi, du coup, ce que je vais trouver bizarre, c'est quand ça va être le prochain film ou la prochaine série
Alors moi j'avais
Marvel,
justement,
où
je vois
justement
ce
il n'y
que
aura
tu
pas
veux
Stan
dire.
Lee, ouais.
Moi j'avais entendu qu'il avait été scanné entièrement, modélisé entièrement en 3D, que du coup en fait il pourrait faire les apparitions sur tous les prochains films ou séries très facilement, dans le sens où comme modéliser un Hulk, on pourrait modéliser un Stan Lee très très
Comme ils ont fait un
facilement, et
petit
donc
peu
l'intérêt.
dans les Star Trek, dans les derniers Star Wars, quand ils ont
Voilà,
réintégré
exactement.
les personnages jeunes de la
En gros,
franchise, quoi.
on verrait Stan Lee dans les prochains films sans vraiment comprendre qu'il est décédé, quoi. Donc,
Ouais,
je trouve que c'est cool. Je trouve que
du
ça
coup,
pourrait
la Marvel
perpétuer un peu
survit, voilà.
son petit caméo à travers tous ses films. Et ça, je trouve ça, c'est sympa.
Alors, soit ça, soit
Alors,
faire vieillir en express le petit jeune qui joue Spider-Man, parce que visiblement, une des raisons pour lesquelles il avait été casté, c'est qu'il se ressemblait à Stan Lee étant plus jeune.
ouais, peut-être aussi. Il y a peut-être moyen. On va enchaîner du coup justement avec ton avis sur la troisième saison de Daredevil qui est disponible sur Netflix. Moi perso, j'ai pas encore eu le temps de la regarder, donc il faut pas
Pas de spoil,
spoil.
promis.
J'ai regardé la première, la deuxième, je l'ai trouvée tout de suite moins intéressante. Mais la troisième, c'est le grand retour de Fisk, c'est ça?
C'est ça, donc pareil.
Et effectivement, pour moi, la première était hyper intéressante grâce à Fisk. Parce que pour moi, c'était un méchant. Charismatique incroyable et simple, il m'a beaucoup manqué dans la saison 2. Il m'a beaucoup manqué dans la saison 2 et du coup effectivement, je pense que je vais regarder la saison 3 grâce à lui. On va pas
Bah,
se mentir.
c'est vrai que Fisk, c'est enfin surtout l'acteur, alors l'acteur que j'adore, l'acteur Vincent D'Onofrio, qui vraiment il le joue mais magistralement, quoi. C'est à lui, franchement, la série devrait s'appeler Fisk, en fait, parce que c'est vraiment lui qui tient toute l'intrigue de la saison 3 en haleine, quoi. Parce que pour moi, la saison 3, alors elle est ni bonne ni mauvaise, mais pour moi c'est en gros c'est le meilleur élève de la classe qui te rend une copie de DS, mais sans se fouler, quoi. Il aurait une bonne note, c'est propre, nickel, mais on voit qu'il s'est pas foulé. Notamment par rapport à la saison 2, où ils avaient pris quand même beaucoup plus de risques en essayant d'intégrer, bon, toute l'intrigue autour de la main, le personnage d'Electra, le personnage du Punisher, plein de sous-intrigues, tout ça, qui pour venir à la saison 3, il se passe pas grand-chose, parce que c'est vraiment... Enfin, pas grand-chose. C'est dans le sens où... C'est un peu dans le même truc que la saison 1, c'est Fisk, Matt, qui est toujours un peu en rivalité entre son identité civile et son identité de vigilancier un peu hors la loi. Et voilà, quoi. Après, il se passe pas grand chose d'autre. Après, ils ont rajouté juste un nouveau personnage qui est superbement bien joué aussi. Donc, celui de Point Dexter. Donc, après, bon, ça, il était spoilé dans les thrillers. Donc, c'est Point Dexter qui sera plus tard Bullseye. Donc, ou le tireur, je crois que c'était en français. Bon, après, voilà, les pseudos de méchants français, ça donne toujours un peu moins bien.
Ouais.
Alors, je connaissais pas l'acteur, mais il le joue super bien. Et notamment, sans spoiler, il y aura une scène où justement, où Fisk va apprendre le passé justement de ce personnage-là, et je trouve, pour moi, c'est la scène est super bien faite, quoi. Et pour moi, c'est une des meilleures scènes de la saison 3.
Ok. Donc c'est tu la conseilles. On est d'accord.
Ah oui, après elle se regarde très bien. Après, faut pas s'attendre à la révolution, mais c'est ni
C'est pas
bon ni
mauvais.
mauvais.
Voilà, c'est ça, quoi.
Mais voilà, comparé par exemple, si on prend le cas j'ai perdu son nom,
Arrow?
Luke Cage.
Ah, ouais,
Qui
Luke Cage.
voilà, Luke Cage, ils avaient peut-être voulu trop en faire, parce que je crois que c'était des épisodes d'1 heure, 1h10, l'épisode, quoi. C'était longué, il se passait pas forcément grand chose. Alors après, on était toujours sur l'éternuel. Alors à la fin de la saison 1, ça y est, j'accepte mes pouvoirs, machin. Début de saison 2, ah non, je veux qu'on me laisse tranquille, bidule chouette. Pour finir, j'assume mon rôle de héros, mais je suis indestructible, je me la pète trop, je me fais démonter. Enfin, c'était très mal dosé, Luke Cage. Et on s'est peut-être des. Après, je pense que c'est le souci des choix faits, je pense notamment suite à l'arrêt de Luke Cage et d'Iron Fist, c'est qu'ils ont pris des personnages pour les séries Marvel, alors j'espère pas faire criser les fans, mais qui sont très mineurs, on va dire, qui sont assez mineurs, déjà en comics. et qui ont du mal à vivre des histoires solo en comics, alors d'avoir fait ça sur le format de série, c'est pas évident. Parce que pour même Daredevil, je sais pas si ça va aller plus loin. Moi, je vois une quatrième saison, et après, c'est faut s'arrêter là, quoi. Parce que je
Ouais,
pense
parce
qu'on
que ça
peut pas être
commence
dans
à tourner un peu
l'esprit.
en rond, quoi.
Ben, c'est ça, puis on peut pas être dans l'esprit un peu justement du Cinematic Universe où on va essayer de réalimenter machin. Luke Cage, Iron Fist, j'espère les revoir sur une série duo, la Series of Fire, qui je pense est le moyen pour les vendre. Pareil, Jessica Jones, j'aime bien ce que ça propose quelque chose de différent, un personnage féminin, mais après son problème de. Enfin voilà, ses sautes d'humeur, son problème d'alcoolisme, machin, tout ça. Voilà
Ouais,
quoi,
c'est un peu chiant.
c'est. Ben, y a que ça qui marche, quoi. Puis pour finir, pareil. J'ai bien aimé la saison 1, la saison 2. Bon, la saison 1, pareil, portée par un méchant excellent. Alors, j'ai oublié son prénom, mais l'ancien docteur, Doctor Who, qui joue super bien. La saison 2, tu l'as vu la saison 2? Non, bon,
Toujours
ben,
pas vu, non.
je te spoil pas, mais la saison 2, voilà,
Passe pas
c'est long,
grand-chose.
quoi. Puis
Ouais, bah
après.
c'est ce qu'on m'a dit, c'est pour ça que j'ai pas voulu la commencer non plus.
Voilà, puis pareil, après. De façon générale, dans les séries, il faut arrêter de faire vivre les intrigues à histoire à coups de cancer, de machin, tout ça, quoi. C'est la maladie du 21e siècle.
Trop répétitif.
Voilà. C'est ça. Il faut
Ok,
sortir
bah si
original.
tu conseilles la saison 3 de Daredevil, je pense
Mais je
que
la conseille. Hein, oui. Alors là, si
je
vous
m'y
voulez avoir
mettrai.
un fisc. Alors ça, c'est. Le fisc, c'est vraiment. Enfin, Vincent D'Onofrio, il joue un fisc qu'on va détester dans un épisode parce qu'il est. Voilà, c'est une pourriture sans nom machin. Et l'épisode d'après, ou voire même le quart d'heure d'après, il va jouer le fisc un peu faible, enfin voilà, très sentimental, et on va limite avoir de la pitié, quoi. Il est entre le méchant et l'anti-héros, en fait.
Ouais,
Pour finir,
ouais.
on dit, même si c'est un pourri qui tue des gens, qui corrompt tout
Je
ça,
l'aime bien.
ben,
Je
en
l'aime
fait,
bien quand
on se
même.
dit, en fait, ce mec, il veut faire quelque chose de bien, mais
Ouais.
pas de la meilleure des façons.
C'est ça.
Donc voilà.
Ok, super. Super, merci. On va terminer avec mon avis sur le tome 5 de Dragon Ball Super. J'ai eu la chance de le recevoir quelques jours avant sa sortie, parce qu'il sort le 14 novembre prochain. Je pense que c'est un des tomes les plus attendus pour beaucoup de monde. Dans ce tome 5, on voit finalement le combat final entre Zamasu et Goku, Vegeta, Trunks, toute la bande de Saiyans. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, sans trop vous spoiler, même si je pense que vous êtes tous un peu au courant maintenant en ayant vu Dragon Ball Super en animé, il faut savoir deux choses, c'est que, enfin, plusieurs choses en tout cas, il faut savoir que ce que j'ai beaucoup aimé dans Dragon Ball Super au niveau du manga, c'est justement qu'il y a des différences au niveau du scénario. Donc ça rattrape parfois les petites boulettes qu'il y avait dans Dragon Ball Super où les fans n'étaient pas super contents. Et en plus de ça, ça propose vraiment quelque chose d'autre. C'est-à-dire que dans ce manga, dans le tome 5, le combat final entre Zamasu et du coup Goku, Vegeta et Trunks est différent de l'anime. Alors je vais pas vous le spoiler, mais sachez que c'est différent. La fin n'est pas la même, les conséquences ne sont pas les mêmes. Et du coup, j'ai trouvé ça, mais vachement cool, parce que du coup, c'est une belle surprise, et on n'a pas l'impression de lire quelque chose qu'on a déjà vu. Et ensuite, on va découvrir donc le prochain arc, qui est l'arc des tournois entre les univers, qui est pour moi l'arc le moins intéressant de tout Dragon Ball Super. Et pourtant, ça a réussi à me donner envie de lire la suite, parce que là, je vais vous spoil, mais c'est pas un spoil de foufou non plus. En gros, il y a une belle surprise, c'est que Zeno va proposer un tournoi entre les dieux de la destruction. Donc chaque dieu de la destruction va devoir se battre les uns contre les autres et il y aura qu'un seul gagnant, quoi. On sait pas la récompense, on sait pas vraiment le pourquoi du comment, mais en fait Zeno il aime bien un peu la bagarre, il aime bien un peu quand ça pète dans tous les sens. Du coup il y a cette petite nouveauté et du coup c'est l'occasion de voir les dieux de la destruction. Se battre, et j'ai trouvé ça mais une excellente idée, et vraiment là j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 6, mais vraiment qu'une envie. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir le tome 5 de Dragon Ball Super. Toi je pense que tu lis aussi Dragon Ball Super de mémoire.
Je prends beaucoup plus de plaisir à lire le manga que, franchement, sur les animés. Des moments, je les regardais, mais en mode, je zappais 5 minutes par 5 minutes, quoi. C'était juste pour dire d'être à la page, ou le dimanche, je zappais un épisode 2 pour voir le résumé. Parce que l'animé était chiant possible.
Ouais, il y a eu des moments, alors je suis un peu moins radical que beaucoup de monde, je sais pas pourquoi, je pense que je suis trop fanboy, on va se mentir, non mais
Peut-être.
voilà, je le sais, je me mens pas à moi-même, mais c'est vrai que, moi je le dis, c'est vrai que des fois c'était pas bon, c'était long, c'était
Même Dragon
chiant,
Ball, l'animé
mais
d'il y
voilà,
a 20 ans était pareil, était aussi chiant, hein.
c'est ce que je répète souvent, c'est que les gens ont oublié à quel point Dragon Ball l'animé, comme tu dis, il y a 20 ans, il y a des épisodes où pendant 4, 5, 6, 8 épisodes, il se passe rien.
Ah bah, le
Mais il se
classique.
passe rien de chez rien. Et il y a des épisodes où on voit Goku en train de se fighter avec Freezer, Et d'un coup, on voit Bulma en train de servir du thé.
C'est ça. Donc ça, c'est le mémé excellent.
C'est la sauce Dragon Ball. Malheureusement, on a continué dans ce délire-là. Et encore, je trouve que ça a été régi par rapport aux épisodes Dragon Ball et Dragon Ball Z, qui ont vraiment été parfois tirés dans une longueur incroyable. Je trouve que Dragon Ball Super a eu cette force, on va dire, de réduire un peu les lenteurs, ce qui était déjà pas mal. Après, effectivement, il y a des arcs moins bons que d'autres. Ça, c'est clair. Moi, l'arc des tournois de l'univers, pour moi, il est, en soi, il est pas mauvais. L'idée est bonne, mais putain, il est long.
Il est trop étiré, c'est ça.
Pour moi, il aurait dû tenir sur 15 épisodes. Sur 15 épisodes, il aurait été génial, parce que là, les combats, ils auraient pu s'enchaîner. Il y aurait eu des morts, enfin, des éliminés beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Là, non, malheureusement, on a voulu tirer ça sur je sais plus combien d'épisodes, on va dire 60, 70, 80. Je pense que ça a même duré un an. Donc, ça a duré un peu plus d'un an.
Je crois que c'est la saison la plus longue.
Je crois que c'est l'arc le plus long. Donc, ça a duré plus de 60 épisodes. Bah, je suis désolé, c'est très trop long. Si ça tenait sur 15 ou 20 épisodes, ça aurait été génial. Et je pense qu'il y aurait moins de monde qui aurait râlé.
Rien que la forme Ultra Instinct où il dit je peux la faire une fois après c'est fini, pour finir avec la claque trois fois dans deux épisodes
ouais,
après.
Voilà, c'est ça. Il y a des trucs. Après, il y a des choses qui sont pas forcément cohérentes. Et je pense que justement, ça va être la force de ce manga, c'est de pouvoir réduire tous les problèmes qui ont été posés durant l'animé, tous les problèmes qui ont été soulevés par les fans durant l'animé, et en plus de proposer, comme je le disais, des choses assez alternatives, soit des fins alternatives, soit des histoires un peu alternatives, et ça, je trouve ça vraiment génial. Après, pour en finir avec ce tome 5 de Dragon Ball Super, Toyotaro, le mangaka qui a repris le succès d'Akira Toriyama, un excellent coup de crayon, faut arrêter de le critiquer comme jamais.
Moi, je vois des gens l'insulter
constamment sur Twitter, alors qu'ils n'arrivent pas à dessiner le centième de ce qu'il fait. Alors, et moi, je trouve qu'en fait, les coups de crayon sont très bons, les dessins sont très bons. Alors, c'est sûr, c'est pas exactement pareil qu'Akira Toriyama, mais c'est normal, il a son propre style, et ça me dérange pas plus que ça. Je trouve que graphiquement, c'est déjà assez ressemblant. On va pas se mentir, hein. Parfois, entre deux dessins, on a du mal à savoir qui est qui. Et je trouve qu'il n'y a pas de grosse erreur, parce que, encore une fois, comme dans Dragon Ball, on peut aussi voir parfois des visages qui sont moins bien faits, des expressions de visage qui sont moins bons. Et dans Dragon Ball Super, c'est pareil. C'est pas toujours parfait, mais dans l'ensemble, c'est très très bon.
Ah bah oui, ça c'est toujours été le souci justement. Bah, au Japon, on faisait les épisodes un petit peu. Voilà, un épisode sortait une semaine après, il fallait sortir le nouveau. Et bah oui, après, c'est sûr qu'au niveau du rendement, il y a eu des cas où certaines images étaient vraiment moches. Enfin, les personnages ressemblaient à rien, il leur manquait un doigt, il ressemble à rien, quoi. Et après, c'était retravaillé pour les sorties à l'époque cassette, aujourd'hui DVD Blu-ray. Mais voilà. Moi, je pense pour ceux qui râlent justement, disent c'est moche, l'animé il est mal fait. Je lui dis déjà arrêtez de le regarder en pirate et attendez qu'il sorte en version officielle à la télé. Bon, malheureusement, on a eu le souci de qu'il sortit un petit peu trop censuré en France, mais sinon, vous attendez la sortie DVD Blu-ray, quoi. Si vous n'êtes pas content que c'est moche, attendez, quoi.
Ouais, non, mais clairement. Et je trouve que pour le manga papier, clairement, c'est vraiment loin d'être
propre, mauvais. Hein.
Au contraire, c'est même très très propre. Il y a vraiment de très très beaux dessins. Et comme je le disais, comme vous allez pouvoir le lire sur le blog dans les prochains jours, il y a certaines planches qui sont très 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 jolies. Vraiment avec des visages et des expressions de visage vraiment sublimes. Moi, j'ai vraiment adoré le lire et je vous le conseille à tous. Voilà, on a terminé pour ce nouvel épisode de The Podcast avec Anthony, que je remercie par sa présence. Comme pour Anthony, donc si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur Facebook ou sur Twitter, ou sur Instagram, ou ce que vous voulez d'ailleurs. Et on s'organise et on parlera ensemble. À bientôt.
À bientôt.